mode d'emploi.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Bienvenue dans l'émission Mode d'emploi avec l'équipe de la 4e dimension. Claude aux manettes, merci. Corentin et Laurent au micro. Ce mois-ci, nous avons décidé de consacrer notre émission aux ZAD. Les zones à défendre, oui, certes, mais c'est une expression publique qui reprend le terme « zone d'aménagement différé ». Donc ces zones d'aménagement différé, qu'est-ce que c'est ? C'est quand une collectivité locale, un établissement public, dispose pour 6 ans d'un droit de préemption sur toutes les ventes, cessions d'un lieu. C'est donc un outil d'aménagement utilisé par les grands projets d'aménagement. On l'évoquera plus tard au travers de multiples exemples. Et en particulier pour les grands projets d'infrastructure. Donc il y a ces projets qui se multiplient en France. On a vu beaucoup de bétonisation de beaucoup d'endroits. Et ce qui a un impact sur l'artificialisation des terres qui est toujours de plus en plus importante. C'est contre ces projets que des oppositions apparaissent et que l'occupation semble être la meilleure option pour transformer les zones d'aménagement différé en ZAD, zone à défendre.
Le 17 janvier 2019, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes célébrait le premier anniversaire de la victoire. Le projet d'aéroport en plein bocage n'aura pas lieu. Ce vieux projet obsolète et climaticide vieux de 40 ans était donc vaincu. C'était donc un jour férié sur la ZAD et 500 personnes sont venues célébrer cette victoire. Au-delà de la fin du combat contre l'aéroport, le 17 janvier 2018 constitue également un point de départ pour les habitants de la ZAD. Le combat concernait l'aéroport et son monde, la lutte est donc une lutte élargie. Et puis, il s'agit alors de poursuivre le projet d'une vie alternative au monde du tout marchand, une alternative bocagère à l'omniprésence du béton, une façon d'habiter les bois et la campagne de manière non standardisée, de faire vivre une agriculture paysanne en osmose avec l'environnement, loin des coopératives agricoles géantes, de la chimie et des grandes exploitations où aucune haie ne vient briser l'horizon. Enfin, laisser une place à la poésie, loin de la rationalité financière qui envahit les moindres recoins de notre géographie et de notre imaginaire. Alors que la lutte contre l'aéroport est ancienne, la ZAD, dans sa forme d'occupation, est finalement assez récente, puisqu'elle prend racine en 2009. Depuis, la lutte contre les grands projets inutiles et climaticides se poursuit en France, même si l'occupation permanente n'est pas un mode d'action systématique. Mais à Roibon, à Bure, à Strasbourg, des ZAD se sont installés également. Pour parler de ce sujet ce soir, nous avons plusieurs invités. Nous avons au téléphone, il me semble, Sylvaine Bull.
Bonjour.
Qui est sociologue, professeur de sociologie au CNRS. Nous avons avec nous en studio Barbara Glowzewski, qui est directrice de recherche au CNRS, anthropologue.
Bonjour.
Et puis nous aurons en fin d'émission Michael Kugler qui est à Strasbourg sur la ZAD du grand contournement ouest de Strasbourg. Donc voilà pour nos invités et pour le cadre de l'émission. Vous pourrez également réécouter cette émission mercredi prochain à 7h du matin sur RFPP ou la podcaster comme toutes les précédentes sur le site internet de Mode d'emploi www.mode-d-emploi.net et n'hésitez pas à nous appeler au numéro de la radio 01 40 05 06 10 mais à partir de 20h50. Alors, pour commencer cette émission, peut-être une première question pour vous, Sylvaine Bull. Peut-être vous pourrez nous parler de vos travaux sur, et notamment les points qui concernent finalement la forme de ces mouvements, donc l'occupation comme mouvement d'opposition à ces projets.
Oui, bonsoir. Je ne vous entends que moyennement, mais je crois avoir à peu près suivi l'ensemble des phrases.
Oui.
En tant que sociologue, en tant que sociologue du politique et de la politique, ce qui m'intéresse dans les mouvements d'occupation, c'est très précisément leur contemporanéité, mais aussi leur originalité, et le fait que, précisément, elles ne peuvent pas être génériques, reproduites, et qu'elles ont toute une part de irréductibilité, quelque chose qui n'est pas domesticable et indomptable. Mmh. En fait, si nous nous intéressons aux occupations, qu'elles s'appellent ZAD ou squat, etc., c'est précisément en effet par leur nature politique et ce qu'elles permettent comme autre organisation de la politique qui échappe au cadre traditionnel mais qui échappe surtout peut-être au cadre de la transition écologique, par exemple, dans lequel on voudrait les faire rentrer. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose de très intéressant dans ce qui s'est passé à la ZAD Notre-Dame-des-Landes, mais en même temps de tragique, parce que l'on voit bien que, précisément, au moment où il s'agit de normaliser par le gouvernement, alors, en l'occurrence à partir du 18 janvier 2018, on voit bien qu'il y a une part d'acteurs qui ne veulent pas rentrer dans le cadre qu'on veut leur proposer. Et donc, de ce point de vue-là, c'est à la fois très porteur de nouvelles réflexions, parce que même si des acteurs à la ZAD ont décidé de partir, parce que le projet qu'on leur proposait in fine ne leur correspondait pas, on sait que c'est déjà une promesse d'aller s'établir ailleurs, avec d'autres formes de vie, et comme vous l'avez dit, aussi avec une forme de poésie, pour reprendre l'expression d'Akimbe, hein, un art de vivre doux et sauvage. Mais je crois que, en effet, on ne peut pas dire qu'une ZAD, en l'occurrence, est une forme qui peut être répétée partout, au risque de perdre sa véritable ontologie, quelque chose qui doit rester indomptable, qui assure tout simplement la pluralité des coexistences, quelles qu'elles soient, et des individualités, quelles qu'elles soient, mais qui est profondément tournée vers l'autonomie politique aussi. Et c'est en ce sens-là qu'il faudrait peut-être établir des différences dans les formes d'occupation.
Mais, quelle sorte de différence vous verriez ?
Tout simplement parce que nous avons des occupations, on le voit, qui peuvent, j'ai envie de dire, et devenir assez régulière, une occupation qui va au fond rentrer dans le rang. Et puis, on a des squats aussi où le projet d'autonomie est très fort, mais qui serait plutôt du domaine de la contre-culture, du style de vie. Et puis, on a des zones comme Lure, qui me semble la suite de Notre-Dame-des-Landes, puisque je la vois et je vois ce qui s'y passe, qui est sans doute la promesse la plus élevée d'une politique un peu indépendante, autonome et de résistance à un enfant nombre de normes qui ne sont pas seulement celles de l'état policier, mais qui sont aussi celles de l'écologie.
Alors Bure, on peut peut-être juste rappeler un peu le contexte.
Alors Bure est une zone occupée, mais qui actuellement est un petit peu tout de même en difficulté, qui a été créée souvent par des acteurs qui sont assez proches de ceux qui étaient à Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu beaucoup de circulation, et qui est une zone qui lutte contre les projets d'enfouissement des déchets, hein, par l'ANDRA, l'Agence de développement du nucléaire. C'est un projet qui était plutôt atone dans la mesure où les riverains, hein, comme à la Dure, en Moselle, dans des secteurs où les riverains sont très peu mobilisés. Et il se trouve que des occupants, maniant la praxis, maniant ce que j'appelle l'appropriationnisme, et qui souvent ont été éclairés, formés, entre guillemets, à la ZAD, ont décidé de réoccuper la zone promise à l'enfouissement des déchets, et puis, comme pour Notre-Dame-des-Landes, d'auto-approprier, de commencer à acheter des maisons, à cultiver un petit peu, même si c'est pas du tout de la même ampleur qu'à Notre-Dame-des-Landes, et aussi de créer des comités de résistance à partir de la maison de résistance, avec, comme à Notre-Dame-des-Landes, plusieurs dimensions, des antifascistes, des anti-autoritaires, des autonomes, des différents courants, avec sans doute une particularité que l'on ne trouve pas à Notre-Dame-des-Landes. Bure est une zone qui est extrêmement... les acteurs, les militants, les autonomes sont harcelés par le pouvoir policier qui est là, puisque nous sommes plus avec une situation d'urgence, puisque ce sont des zones de défense nationale, donc avec une présence non pas de la police, mais de la gendarmerie qui est énorme, du contrôle incessant, un mode de paysage qui relève aussi du maquis, comme à Notre-Dame-des-Landes, mais qui est tout de même plus touriste, plus difficile à occuper des autonomes ou des acteurs qui sont moins nombreux, mais avec une force de résistance qui est assez épatante. Voilà.
Et c'est qui ces acteurs qui viennent sur les ZAD? Parce que de ce que vous en dites, on sent que c'est un melting pot de plusieurs mouvances, de plusieurs... voilà, pour éclairer nos auditeurs, qui vient sur une ZAD et quels en sont les différents objectifs? On a commencé à le voir dans ce que vous disiez, mais si on pouvait résumer ça.
Si on prend notre avion, mais comme vous l'aurez fait exactement, ce sont exactement les mêmes configurations avec les mêmes pôles, les anti-autoritaires qui donc sont absolument, eux, beaucoup plus tournés précisément vers le fait d'échapper à l'État et surtout de le combattre. Et comme vous le savez, un anti-autoritaire ou un antifa, il est avant tout préoccupé par le fait de s'opposer à l'État en tant que celui-ci est une force de répression, j'ai envie de dire, globale. Il n'y a pas quelque chose que l'on peut extirper en particulier dans l'antifascisme. Il s'agit de s'opposer à un État qui est autoritaire, totalitaire, parce qu'il résume l'ensemble des formes d'exploitation qu'on peut trouver dans un système marchand et capitaliste. Ensuite, donc ça, ce sont souvent aussi les féministes qui ont une politique très intéressante dans l'autonomie parce qu'elle consiste aussi à réinterroger la société du dehors par rapport à ce qui se fait dans le dedans, c'est-à-dire faire en sorte de décortiquer tous les rapports de domination qui peuvent exister au sein d'une occupation, parce qu'il y en a. Entre des problèmes de genre, des problèmes de transgenre, des problèmes de race et surtout des problèmes de classe. Donc le positionnement est de tout simplement mettre en place un système qui est un système contre-répressif, contre-totalitaire, j'ai envie de dire. En fait,
pour éviter les rapports de domination.
Absolument. Pour arriver à une non-domination, précisément, qui pourrait... qui échappe au rapport de domination qu'on trouve à l'extérieur, c'est-à-dire dans le système que l'on a quitté. Ensuite, si on prend Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est beaucoup plus clair qu'à Bure, où Bure, l'agriculture n'a pas été développée, on n'est absolument pas dans les mêmes configurations de terres, on a un pôle qui, alors, pour le coup, il faudrait discuter de ce qui s'est passé après le 18 janvier, mais si on prend l'avant du 18 janvier, précisément, moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus que ce qui s'est passé après, un pôle que l'on pourra qualifier soit d'autonome, donc avec toutes les formes associationnistes que ça suppose, mettre en commun les moyens, j'ai envie de dire, de production, de culture, mettre en place une micro-société basée sur l'autoconstitution et l'auto-institution, mettre en commun toutes les formes d'intelligence, de savoir, etc. Et puis ensuite, on aurait un troisième pôle, c'est celui... je dirais qu'il est vainqueur, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a des gagnants et des perdants à Notre-Dame-des-Landes, qui est celui qui a survécu au 18 janvier 2018, ou qui est appelé, sans avoir de catégorie, hein, mais qui est sans doute, j'ai envie de dire, le moins politique au sens de l'autonomie, et qui peut être défini comme un modèle tourné vers l'utopie, au sens où, au fond, il peut... on peut construire des brèches, hein, pour reprendre le terme des penseurs de l'anticapitalisme ou de l'utopie contemporaine, construire des brèches dans le système, c'est ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, en gardant les petites institutions sociales qui ont été créées avant le 18 juin, le studio RAC, la Gazette, la bibliothèque, etc., mais en tout cas en façade ou pas, parce que là aussi il faudrait rentrer dans le détail, il y a de nombreux débats, en tout cas font semblant ou décident de composer, d'offrir une façade acceptable pour l'État. Donc c'est au fond, même s'il y a une démarche qui peut être tactique ou de stratégie, de dire nous remplissons les fiches, nous avons accepté en façade la normalisation, ça peut être en effet pour toujours avoir en dessous, je vais dire, dans une infrapolitique, un projet qui est plus vaste, qui est quand même, malgré les injonctions de l'État, de pouvoir continuer à construire du commun. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des discussions qui reprennent tout de même autour du fait que c'est pas parce que nous avons signé des fiches que nous sommes pour la propriété régularisée, normée, par toutes les normes agricoles que l'on connaît. Mais d'une façon générale, je dirais que c'est le dernier groupe qui est resté à Notre-Dame-des-Landes et celui qui, en effet, s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler une démarche alternative. Au fond, continuer à prôner une autre agriculture, d'autres formes de vie, etc. Mais je dirais que ce serait peut-être moins intense que celle qui ont été proposées, qui étaient celles des antifascistes, par exemple, où les formes de vie sont beaucoup plus intégralistes, beaucoup plus perfectionnistes.
Alors, je vais vous interrompre juste, il y a Barbara qui est en studio qui voudrait réagir, rebondir.
Oui, je crois qu'il ne faut pas oublier que ceux qui sont là aujourd'hui étaient là aussi avant. Donc, ils sont plus d'une centaine et ils ont continué des projets qu'ils avaient commencés avant. Mais c'est plutôt sur un plan anthropologique et politique que j'aimerais réagir ici. C'est qu'aujourd'hui, les différentes luttes anticapitalistes et contre les projets, les grands projets inutiles, en fait, dans le monde, viennent souvent de minorités, par exemple de peuples autochtones, qui sont un peu ma spécialité, comme par exemple en ce moment les Amérindiens en Guyane contre la Montagne d'Or. Et dans ces luttes-là, qui sont vraiment des luttes pour remettre à jour du commun tel qu'il a été en partie détruit par la colonisation dans tous les pays, et y compris la France dans ses outre-mer, mais pourtant quelque chose qui se maintient comme un idéal et aussi dans la pratique, parfois dans des occupations et parfois dans des aménagements qui pour moi ressemblent un peu à ce qui se passe à la ZAD aujourd'hui. C'est-à-dire que face à l'État, pour avoir cette autonomie, on est obligé non pas juste de composer, bon, j'aime bien le terme composer qu'à condition de parler de musique, de composition musicale, mais non pas de faire des compromis, mais au contraire de continuer cette intelligence collective qu'on a vue pendant plus d'une dizaine d'années s'exercer là-bas à Notre-Dame-des-Landes, en essayant d'imposer la mise en place de nouvelles procédures qui reconnaissent le collectif. Et c'est exactement aussi ce que font, par exemple, les Amérindiens en Guyane française, parce que leur manière de gérer les terres et leur vie aujourd'hui dans des communes ne sont pas les mêmes que celles que la France autorise par rapport au collectif. Et pourtant, aujourd'hui, suite à leur grand mouvement social l'année dernière, donc avant les Gilets jaunes, ils ont obtenu un certain nombre de promesses du gouvernement. Sur les barricades, ils étaient en alliance avec des tas d'autres gens qui dénonçaient la situation de pauvreté en Guyane et toutes sortes d'autres choses qui s'y passent. Et donc, par rapport à ça, il y a eu la restitution pour la première fois de 40 000 hectares de terre pour un groupe de Kalinia, alors que depuis les années 80, ils demandent 400 000 hectares de terre. Je parle de ça un petit peu en détail parce que aujourd'hui, les modèles qui sont recherchés à Notre-Dame-des-Landes ou dans les ZAD correspondent en fait à quelque chose qui traverse toute la société, que ce soit en France ou ailleurs, pour gérer les choses collectivement, pour prendre en main sa destinée, pour arriver à s'approprier tous les aspects de la vie. Et c'est pour ça que je pense que Notre-Dame-des-Landes a reçu tellement de soutien à travers la France et puis aussi à l'étranger, mais particulièrement l'année dernière, quand il y a eu cette offensive quasi militaire, enfin de gendarmes avec des blindés comme on a vu ensuite sur les Champs-Élysées pour les Gilets jaunes, détruire les habitats de 200 personnes, soit à peu près 63 cabanes et fermes qui avaient été retapées par les zadistes. Et donc 2500
gendarmes au départ pour 200 habitants. Donc, bien sûr, dès la première intervention, d'autres gens sont arrivés pour les soutenir. Mais la moitié des habitants ont été détruits. Donc, effectivement, ça a créé une solution, enfin une solution pour le gouvernement qui n'en était pas une. Mmh. Puisque, de fait, partout dans les médias, on disait que la ZAD était évacuée, alors qu'en réalité, pendant les semaines qui allaient suivre, il y avait beaucoup plus d'habitants sur place qu'il n'y en avait au moment de l'attaque de Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire que des gens sont venus soutenir les zadistes qui étaient là. Il y avait le fameux camp des cheveux gris, qui d'ailleurs ont été gazés comme tout le reste. Moi, j'y suis allée au bout d'une semaine. Pourquoi ? Parce que on était tout un groupe de gens qui avaient participé à la barricade des mots... qui était une initiative de la bibliothèque de la Notre-Dame-des-Landes.
Ah, juste avant que vous continuiez, je sais que Sylvain Bull, vous aviez des engagements ce soir. Vous pouvez rester, bien sûr, mais si vous souhaitez nous quitter, n'hésitez pas.
Oui, je peux rester encore 5 minutes, mais... Oui.
Voilà, et faites-nous signe quand vous souhaitez aussi réagir, parce que c'est vrai que c'est pas simple au téléphone pour nos auditeurs. Vous êtes à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, donc les conditions sont pas idéales. Mais bon, allez-y, Barbara Gloseski, je vous ai interrompu sur votre récit.
Il y a pas de problème. Donc, contrairement à l'intervention précédente de Sylvain Bull, moi, je suis anthropologue, mais je ne travaille pas comme anthropologue à Notre-Dame-des-Landes. Je suis allée à Notre-Dame-des-Landes en novembre 2016 parce que nous avons été appelés, un certain nombre de gens en sciences humaines et sociales, des universitaires, des chercheurs, particulièrement de l'école des hautes études en sciences sociales, et puis des étudiants, pour faire une sorte d'opération de soutien. Donc, en novembre 2016, dans le grand amphi de l'EHESS, qui s'appelait la barricade des mots, l'abécédaire. Et moi, j'avais choisi la lettre R, R comme réfugié de l'intérieur. Je n'étais pas encore allée à Notre-Dame-des-Landes.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est une barricade des mots? Parce que...
Eh bien, une barricade des mots, c'était l'idée qu'avec des mots, on va défendre une cause. C'est-à-dire que, à quoi ça sert une barricade? Une barricade, ça sert à la fois, enfin, dans une lutte, ça sert à la fois à se protéger et puis à pouvoir éventuellement faire passer au-dessus de la barricade ce qu'on a comme projectiles à lancer. Et les projectiles à lancer, c'est aussi des idées. Et donc, ces idées, c'était un appel, disons, à des intellectuels, entre guillemets, à expliquer pourquoi ils étaient intéressés par ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Donc, toutes ces interventions faisaient 4 minutes chacune. Vous pouvez les voir sur YouTube si vous tapez « barricade des mots abécédaires ». Mais pour moi, ça m'a changé ma vie. Le lendemain, je suis allée avec une trentaine d'autres personnes en car jusqu'à Notre-Dame-des-Landes. On a refait un abécédaire avec les gens de là-bas. Et après, j'y suis retournée une dizaine de fois et j'étais de plus en plus convaincue, encore plus que le texte que j'avais lu le jour de la barricade des mots avant d'y aller. Et si j'étais motivée au départ, c'est parce que justement je faisais le rapprochement avec les luttes qui sont ma spécialité, donc celle des peuples autochtones et notamment des aborigènes en Australie.
C'est quoi votre première impression en arrivant sur Notre-Dame?
Eh bien, ma première impression, c'était quelque chose de, une espèce de bouffée à la fois de liberté et d'exigence et de méfiance. Et cette méfiance-là, j'en ai tout à fait l'habitude dans les communautés autochtones, que ce soit en Australie ou chez les Amérindiens, parce que il se joue là quelque chose qui appartient, qui a été développé par les gens qui vivent là, et qui justement le protège d'une certaine façon, et ne sont ouverts à l'extérieur qu'à condition que quelque chose puisse s'échanger. Et ces échanges-là, eh bien, il y a beaucoup de gens qui, comme moi, les ont eus avec les gens de la ZAD, au point que quand il y a eu donc l'offensive des 2500 gendarmes au mois d'avril,
en 2018, donc on a
fait d'abord avec des gens de la barricade, les anciens de la barricade des mots, mais étendu à des tas d'autres personnes, un appel qui s'appelait défendre habiter, Et en quelques jours, il y a eu 56 000 signatures à travers la France. Et les gens qui signaient n'étaient pas forcément des gens qui étaient déjà venus à Notre-Dame-des-Landes. Bon, mais il y a beaucoup de films qui ont été faits, beaucoup de reportages, beaucoup de livres, enfin des choses très, très intéressantes qui ont été, y compris, publiées par des zadistes eux-mêmes, comme le collectif Mauvaise Troupe qui a fait plusieurs livres. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles. Mais donc, dans ces soutiens qui ont été faits, il y a des gens assez célèbres, comme l'architecte Patrick Bouchain, l'écrivain de science-fiction Damasio, le paysagiste Clément, enfin, ouais. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient motivés pour soutenir Notre-Dame-des-Landes, hein? C'est pas juste parce que c'est une expérimentation sociale, une utopie qui nous ferait rêver. C'est parce qu'il y a quelque chose de très concret qui se passe là, qui a eu un effet de contagion sur beaucoup de jeunes ailleurs en France et au-delà.
Est-ce que Nuit Debout, par exemple, il y a des similitudes avec ça?
Mais je pense qu'il y a quelque chose qui traverse toute la société, donc il y a des cristallisations qui se font dans des endroits différents. Mais le fait que la ZAD ait réussi à tenir, enfin, essayez d'imaginer quand même qu'entre 2012 et 2018, c'est-à-dire jusqu'à l'abandon de l'aéroport par le gouvernement quand Hulot était encore là, ils ont vécu là sans police. Hein? C'est-à-dire que la police n'est jamais entrée dans cette zone de non-droit. C'est immense, hein? c'est 1600 hectares. C'est des champs, c'est une douzaine de fermes en pierre qui ont été retapées par les occupants, et plein de cabanes, des bois magnifiques, des vaches, des brebis.
Ça fait plus de 10
voilà.
kilomètres de long.
Donc, ça, c'est
la terre devant les yeux.
Voilà. Ouais. Donc,
juste,
ils ont
Sylvain
réussi.
Boulet, oui. Vous voulez intervenir?
Oui, je vais devoir vous quitter, mais enfin, si vous voulez, moi, je suis entrée à la ZAD en 2014, donc je veux bien céder aux visions idylliques, on est très sensibles, aux visions très éthiques, etc. Ce n'est pas le problème. Le problème si vous voulez, ce que dit Barbara, pour moi, ça reste tout de même beaucoup plus du domaine de ce que j'appelle la contre-culture. C'est très bien. Bouchain, son manifeste, Clément, son manifeste, mais il n'en demeure pas moins. Je suis désolée qu'au final, ceux qui ont été effacés de la ZAD, c'est précisément pas ceux qui avaient réussi à bricoler cette magnifique forme que l'on connaît, notamment dans la partie ouest et centre. Ce sont ceux qui demeuraient irréductibles, au sens où, dans une ZAD, il y a aussi une part de personnes autonomes qui, précisément, continuent à faire peur à l'État. La question de rapport à l'État, etc., elle n'est pas... Ceux qui font peur à l'État, ce ne sont pas ceux qui ont construit les magnifiques demeures en pierre qui les ont occupées dans ce geste sublime, etc. Ce sont ceux, précisément, qui continuent à menacer l'État, pas au nom de l'écologie, parce qu'ils seront insensibles, parce qu'ils s'opposeront à tout, ils s'opposeront à tout, tout le temps, etc. Donc c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. L'UGAN n'est pas seulement un ensemble, un bon petit squad d'UGAN, on est tous d'accord avec ça, avec toutes les formes, en effet, de récupération des terres, d'ouverture sur des possibles. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une part maudite dans la ZAD. Et celle-ci, elle a quand même disparu. Parce que ceux qui viennent l'État n'est pas ceux, ce ne sont pas ceux qui portent le modèle de la transformation des modes de vie, je ne veux même pas dire forme de vie, c'est-à-dire ceux qui sont restés sur la ZAD, ce sont ceux qui constituent une menace parce qu'ils étaient antifascistes et anarchistes. C'est là où il faut faire extrêmement attention de ne pas brouiller l'ensemble des repères. La ZAD n'est pas seulement une contre-culture avec des formes de vie, des formes de gestes, une danse scatologique, comme dirait Akinde. Il y a des gens qui sont restés des sans-parts dans ce monde-là, et qui menaçaient précisément l'État. Et ceci, ils sont partis. Ils sont partis aussi parce qu'ils étaient contre l'affirmation d'une esthétique, du monopole de l'esthétique, du monopole d'une forme de vie avec la bonne petite agriculture, etc. Encore une fois, nous n'avons rien contre ce modèle, qui est celui qui est resté. Mais je crois qu'il est dangereux d'essayer de recouvrir, de dire qu'au fond, qu'il n'y aurait pas de tension, qu'il n'y aurait pas qui n'aurait qu'une forme de ZAD et qui serait une forme ou un modèle politique qui est déjà advenu, qui est celui que la ZAD qui reste.
Mmh. La ZAD est multiple, quoi. C'est ce que vous défendez, quoi, avec effectivement des...
Non, je ne défends rien, mais en tant que... Je suis soucieuse d'être vigilante par rapport à l'explication de ce qu'est l'autonomie, de ce qu'est l'utopie, de ce que sont les formes politiques qu'on ne peut pas réduire à celles qui nous conviennent. Voilà, sans oublier les choses. Voilà.
Très bien. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci.
Merci encore.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée. Et qu'on va rendre la parole à Barbara.
Loin de moi de nier la multiplicité de l'histoire et des habitants de la ZAD, mais je pense que l'histoire, justement, nous montre qu'il y a des temps différents. Et le temps de l'occupation n'est pas le temps d'aujourd'hui. Le temps d'aujourd'hui, c'est un temps d'invention, de négociation nouvelle.
Du futur.
Pour le futur, faire quelque chose d'autre qui, dans cet état qu'est la France, en train d'exploser quand même, devrait permettre à des gens de faire des choses nouvelles qu'on n'a pas encore imaginées, qui sont à imaginer.
Ouais.
Hein? Donc c'est pas du tout pour justifier ou nier les conflits qui ont pu avoir lieu, mais je pense que les gens qui sont partis n'étaient pas ceux qui faisaient effectivement de l'agriculture déjà, c'est-à-dire depuis le début que l'espace est occupé, il y a eu des gens qui ont trié.
Ils sont partis sous quelle forme? Qu'est-ce qui a posé? Non. D'accord.
Non, ce n'est pas. C'est moi. Je ne suis pas là pour raconter ce que les gens qui sont partis ont été faire. Je ne sais pas. Je ne les vois pas. Là, je reviens de Notre-Dame-des-Landes. Je suis allée pour l'anniversaire de l'abandon du projet d'aéroport. Donc c'était le 17 janvier, il y avait 450 personnes pour célébrer donc cette fête. Donc aussi bien des gens qui y vivent que des gens qui soutiennent autour, notamment des gens engagés pour des formes dans des formes paysannes autres, mais même dans les projets actuels, même dans les conventions d'occupation qui avaient été signées en juin, les 15 projets avec l'État, il y avait des projets très variés et une assez grande intelligence dans le dépôt de ces fiches qui n'étaient pas juste individuelles, mais qui se croisaient les unes les autres de manière aussi à intégrer les fiches des personnes qui ont été rejetées. Parce que l'enjeu, c'est d'arriver à avoir suffisamment de liberté dans un espace pour pouvoir y faire ce qu'on veut. C'est pas en termes de contre-culture. Quand je parlais des Amérindiens de Guyane tout à l'heure, c'est pareil. Je veux dire, ils habitent en France parce que le département, la Guyane, c'est un département. Et donc, dans leur commune, pour pouvoir vivre comme ils ont envie de vivre, ils sont obligés de correspondre à certaines normes de l'État. Mais ils les détournent à leur façon aussi. On parlait de Bouchain tout à l'heure, l'architecte. Lui-même, dans un des ateliers qui a été animé au mois de mai sur place là-bas à la ZAD, donc à l'ambassada, parlait de ce qu'on appelle le permis de faire. Partout en France aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de permis de construire. Même quand ils sont propriétaires d'une terre, ils peuvent pas construire dessus. Mais une fois qu'on a construit quelque chose, eh bien, on peut demander à faire reconnaître ce qu'on a construit. Or, c'est très très mal vu, évidemment, par les instances d'État. Mais c'est un mouvement qui existe, comme il y a des associations pour l'habitat précaire. Donc, voilà, ça c'est un croisement, avec des choses qui se sont passées à la ZAD et qui continueront à se passer, parce que ce qui est important aujourd'hui, il y a eu cette idée de créer un fonds de dotation. Le fonds de dotation, c'est une forme de juridique qui n'est ni une association, ni une fondation, mais qui permet d'acheter collectivement des terres sans que aucune des personnes qui met de l'argent pour les acheter ne soit propriétaire de ces terres.
Donc c'est sous forme de dons.
Voilà, ce sont des dons, et donc les donateurs n'ont aucun droit, ne sont pas au conseil d'administration.
Il n'y a pas de capital. Il y a un capital, mais qui n'appartient qu'au collectif, qu'à
voilà.
ce fonds.
Donc l'idée, le fonds de dotation ça s'appelle Terre en commun, Terre au singulier, a été créé avec l'idée que si les gens partaient, comme il est souvent arrivé dans des expérimentations qui ont eu lieu
projets,
en France, collectifs, où les gens au bout de quelques années ne s'entendent plus pour X raisons, eh bien ils n'allaient pas partir avec un bout du territoire, le territoire restait, non pas pour les gens qui y vivaient seulement, mais pour l'idée elle-même du fonds de dotation telle qu'elle est exprimée avec un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs-là, c'est la mise en commun. des terres, des habitats et une certaine ouverture correspondant à des idées qui ont été développées depuis plus de 10 ans par les gens qui ont vécu à la ZAD, voilà, et qui sont partagées par beaucoup de gens qui les ont soutenues. Donc ce fonds de dotation a été lancé donc officiellement le 17 janvier dans une conférence de presse, et avant a été un peu testé auprès de quelques centaines de personnes. Il y a eu 300 réponses et un premier arrivage de dons, parce que il s'agit quand même d'une grosse levée de fonds. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que dans les semaines ou mois qui viennent, l'État va mettre en vente une douzaine de bâtis. Donc, justement, ces fermes qui ont été aménagées,
sur les terres que l'État avait récupérées suite à la fin de l'Europe.
Oui, pas l'ensemble des terres. C'est un vrai puzzle, ces 1600 hectares. Vous avez,
Vous encourage à aller sur Internet voir
les projets.
Le projet de la ZAD est très intéressant en termes d'infrastructure.
Absolument. Donc les projets agricoles de la ZAD, c'est avec ou sans convention d'occupation, c'est 170 hectares. Les agriculteurs historiques résistants, c'est 370 hectares, c'est-à-dire eux, normalement, ils devraient récupérer leurs terres.
Ouais.
Ils sont résistants, c'est-à-dire ils ont refusé les indemnités. Bon, alors un an après, ils ont toujours pas encore leurs terres. Ça va se faire, un an après, ils les ont toujours pas. Par contre, il y a d'autres agriculteurs qui ont touché des indemnités, qui à l'époque étaient plus élevées que le prix de l'hectare de terre aujourd'hui. Mais comme c'était des indemnités, ils revendiquent de pouvoir être à nouveau propriétaires des terres pour lesquelles ils ont déjà été indemnisés. Voilà, alors on les appelle dans le jargon de Notre-Dame-des-Landes les cumulards. Voilà, alors les terres des cumulards, donc qui ne sont pas les bâtis dont je viens de parler, sont rétrocédées au département. Et ça sera mis en vente aussi. Alors évidemment, ce sont des agriculteurs de la monoculture qui veulent récupérer ce genre de terre. Donc il y a une espèce de petite guerre qui se joue ici pour un type d'aménagement de l'espace qui correspond vraiment à des valeurs très très différentes.
Et le département va laisser faire
L'enjeu c'est de acheter suffisamment de choses pour pouvoir tenir cet espace tel qu'il est, parce que c'est comme pour les semences OGM. Si vous avez un champ à côté de vous où il y a des OGM, votre champ il risque d'être contaminé. Il s'agit pas de faire un truc juste sur un petit espace. Voilà, il y a cet appel. Et moi, je trouve que c'est un truc formidable. Moi, je suis pas propriétaire. J'ai ni terre, ni maison, ni voiture. Mais j'ai contribué et je suis marraine de ce fonds. On est 6. On est 6 universitaires. Il y a Christophe Bonneuil qui est historien. Il y a Geneviève Azam, économiste. Il y a plusieurs personnes. Et donc, on soutient parce que on pense qu'il y a quelque chose ici qui continue à s'inventer.
Alors, vous pouvez retrouver le fonds de dotation sur https://encommun.eco. Et vous pourrez, vous renseigner déjà et donner éventuellement.
Et puisqu'on y est, nous sommes dans une radio à défendre, Fréquence Paris Pluriel est en danger, plus que jamais, elle a besoin aussi de vos dons, prenez votre carte bleue et faites d'une pierre deux coups, allez donner en commun et sur le site de
rfpp.net.
Voilà. On vous propose une petite pause musicale avant de prendre notre interlocuteur au téléphone. Merci.
Et à tous, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel. On vient d'écouter Skip and Die, la cumbia dictatula, et nous recevons au téléphone Michael Kugler.
Bonjour, du coup c'est pas Michael.
D'accord, ouais, pas de soucis, c'est que j'ai eu Michael par par messagerie interposée, mais
du coup on va vous laisser vous présenter.
Ouais. Donc vous êtes à Strasbourg sur la ZAD du Grand Contournement Ouest, la ZAD GCO comme on dit, enfin du moins le chantier GCO.
Oui, tout à fait. Bah du coup moi je m'appelle Julien et ouais en fait ce qu'on appelle la ZAD du Moulin du coup puisqu'on était à côté de, ouais. Du terrain d'un moulin et on l'avait appelé comme ça.
D'accord.
Alors, est-ce que vous pouvez nous situer un peu cette ZAD, quand elle a commencé, qui l'a ouverte et
est-ce qu'il s'y passe?
Ouais, bah déjà, donc c'est une ZAD qui a été créée contre le projet de Grand Contournement Ouest de Strasbourg, donc une autoroute de 24 km à péage, donc concessionnaire principal est Vinci, à part pour l'échangeur nord où c'est la SANEF. Du coup, bah, cette date a été la suite logique d'un combat qui est mené depuis longtemps, puisque le collectif GCO Non Merci existe depuis 40 ans. C'est un projet des années 70 qui a été ressorti des placards.
D'accord, ouais. Il y a quelques similitudes avec Notre-Dame-des-Landes sur.
Même temporel. Quasiment même époque de création du projet. Ouais. Comme Notre-Dame-des-Landes, abandonné une première fois puis ressorti des placards, ouais, il y a pas mal de similitudes, ouais, sur le projet. Et du coup, la création de la ZAD, elle a été faite en juillet 2017, après des festivals qu'on avait déjà fait sur le terrain où la ZAD s'est installée ensuite, dans le village de Kolbsheim.
Ouais.
Du coup, qui a été installée par une partie des opposants au projet de Grand Contournement, avec l'appui du collectif d'associations, et aussi, ce qui nous a bien aidé, l'appui du maire, qui était très favorable à ce qu'une ZAD contre le GCO s'installe sur le terrain de sa commune.
D'accord, ouais. Donc là, vous avez un soutien institutionnel local, quoi, on va dire.
Oui, puis les propriétaires du terrain également, qui sont propriétaires du moulin, qui ont accepté aussi qu'on utilise ce terrain pour, qui était en plein sur le tracé du GCO, en fait, donc bien symboliquement, c'était bien pratique, puisque en fait, on a une très forte opposition de la population locale à ce projet également. L'enquête publique, par exemple, a été défavorable à plus de 80%, donc.
D'accord, ouais.
C'est un projet qui est vraiment imposé. Là, le terme de grand projet inutile et imposé est tout à fait bien choisi.
D'accord, ouais. Et aujourd'hui, donc là, du coup, vous dites la ZAD, première occupation en 2017, avec des constructions, du squattage du terrain, c'est ça?
Ouais, au tout début, en fait, c'est des gens qui se sont installés, au début avec des tentes, hein, installer un campement,
ouais.
des locaux, et ensuite, après, des gens sont venus aussi s'installer. Avec commencer à construire une cabane en dur, puis plusieurs, à aménager le terrain. Il y a aussi une vieille grange qu'on a réutilisée, où on a pu aménager comme ça pour faire des réunions, pour faire des projections débats,
D'accord,
inviter du monde sur la ZAD.
D'accord, donc il y a aussi une émulation de la population, une invitation à découvrir le lieu et le projet, quoi, finalement.
Oui, en dehors des festivals, par exemple cet été, on en avait refait pour faire venir un peu du monde à la ZAD et qui découvre. On faisait à un moment donné un week-end Découvre ta ZAD, où justement on invitait surtout les populations locales à venir à la ZAD, à pas se fier à des préjugés ou à ce qu'on peut se faire comme image quand on connaît pas l'endroit, et à venir la découvrir d'eux-mêmes. Donc il y a des gens qui venaient régulièrement les week-ends aussi pour échanger avec les ZADistes ou avec les opposants au GCO, pour voir comment était la ZAD. Et après, en fait, ça s'est transformé en week-end de construction. On invitait les gens qui n'étaient pas forcément tout le temps là à venir aider les week-ends à construire la ZAD, à préparer des défenses aussi en vue de l'évacuation.
Qu'est-ce qu'on entend par construction? Donc, vous avez des lieux en dur qui ont commencé à pousser?
Ouais, il y avait plusieurs cabanes qui se faisaient. On avait commencé à construire une scène aussi pour pouvoir faire venir des groupes de musique. Il y avait aussi de la préparation de petites barricades. Et après, les gens qui s'installaient, quoi, tout simplement. Il y a aussi eu de l'aménagement de caravanes, par exemple, qui permet d'installer rapidement des gens, puisqu'il suffit de l'isoler un peu, de rajouter un poêle pour passer l'hiver, et finalement, ça vous fait comme une cabane.
D'accord, ouais. Et alors, du coup, suite à cette installation, comment ont réagi les pouvoirs publics les constructions aujourd'hui? Enfin, il n'y a pas eu d'évacuation
Du coup, le 10 septembre 2018, il y a eu une évacuation, donc... L'État, par la voie du préfet, nous a envoyé 515 gendarmes mobiles ainsi qu'un hélicoptère et des drones pour nous suivre, et on a été évacués. Donc, même si pas mal de gens des populations locales ont fait le déplacement ce jour-là, puisqu'on savait qu'on allait être évacués ce jour-là, on tentait de défendre le lieu, mais il y avait des effectifs tellement immenses du côté des forces de l'ordre que l'évacuation a quand même été assez rapide.
D'accord, ouais. Et ils ont des, j'imagine, ils ont détruit les cabanes, etc.
Dans la foulée, quasiment. Le jour même de l'évacuation, en fait, une fois qu'ils étaient sûrs qu'il n'y avait plus un seul opposant sur site, il y a des bulldozers qui sont venus tout de suite le jour même pour raser les cabanes, pour être certain qu'on n'ait pas l'espoir de se réinstaller dans ce qu'on avait déjà construit.
Et du coup, il y a eu des mouvements contestataires. On a vu à Notre-Dame-des-Landes où suite à des évacuations, il y a eu des regroupements, des rassemblements pour essayer de revenir et de réinvestir les lieux. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire?
Après l'évacuation de la ZAD, en fait, vu qu'elle est sur le tracé du GCO, on a tenté d'empêcher les déforestations, mais ils ont profité en fait qu'un aussi grand nombre de gendarmes mobiles étaient mobilisés à cet endroit-là pour un certain temps pour faire les travaux dans la foulée sous haute protection, en fait. Donc oui, on a tenté plusieurs choses.
Parce qu'il y a une forêt, c'est ça, hein, il y a une grande forêt sur le tracé.
Ouais, enfin, elle est peut-être pas immense non plus, mais en tout cas, c'est une forêt avec une zone humide, donc. Au niveau de la biodiversité en Alsace, c'est quelque chose qu'on n'a plus tellement et qui reste extrêmement important pour certaines espèces. On a aussi des tritons crêtés ici, comme un Notre-Dame-des-Landes d'ailleurs, pour un certain nombre d'oiseaux, de chiroptères également. Et donc oui, en fait, ils ont la région de l'autoroute, plus l'emprise du projet, ils ont rasé la forêt dans la foulée la semaine de l'évacuation de la ZAD, en fait.
D'accord. Ouais.
Maintenant, on s'est même visible sur Google Maps, on voit vraiment deux fois la largeur d'une autoroute, en gros, même peut-être trois fois, qui est vraiment rasée en long à travers la forêt. C'est pile poil là où il y avait la ZAD. Donc oui, ils nous ont évacué le lundi matin, et le vendredi soir, la trouée était déjà faite.
D'accord, ouais.
Et même l'appui du maire et ses appuis institutionnels n'ont pas été suffisants pour lutter?
Non, malheureusement non, puisque on avait l'appui du maire de Kolbsheim, d'autres communes également qui sont impactées par le GCO, comme le maire de Petit-Sheim par exemple. Il y avait également des conseillers municipaux de l'Eurométropole de Strasbourg qui étaient là le jour de l'évacuation avec les manifestants. Mais il faut savoir qu'en fait un maire face à un préfet, ça a très peu de pouvoir. Hein.
Oui.
L'État et l'exécutif ont renforcé ces dernières années l'arsenal dont ils bénéficient. Une 5e République d'ailleurs qui laisse déjà beaucoup de pouvoir au président. Et aux personnes, les préfets sont nommés par l'État, donc ils leur obéissent directement. Et un arrêté municipal, par exemple, face à un arrêté préfectoral, n'a aucun poids, en fait. D'ailleurs, devant un peu cette déconvenue et le fait que finalement les pouvoirs du maire sont limités, le maire de Kolbsheim avait brûlé son écharpe après s'être lui-même fait gazer plusieurs fois par les gendarmes mobiles.
Et aujourd'hui là, les actions qui sont en cours cet hiver, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient.
Ouais, nous notre priorité, ça reste de stopper ou d'empêcher et de perturber au maximum les travaux. Donc toutes les semaines, on va bloquer des chantiers, différents chantiers sur le tracé du GCO. Cette semaine, on a une actualité particulièrement dense, puisque à la forêt du Grindwald, à Wendenheim, tout au nord du tracé de la future autoroute, c'était le dernier endroit où il devait déboiser 12 hectares qui permet de construire l'échangeur nord.
Ouais.
Du coup, dès lundi matin, c'était l'alerte générale. Donc, il y a eu des manifestations devant le site, des gens qui se sont infiltrés dans la forêt pour essayer de bloquer les machines, tentatives de passage, mais... Là, ils avaient un peu retenu la leçon, puisque ça fait un moment maintenant qu'on fait des blocages de chantier régulièrement. Ils avaient mobilisé de nouveau un nombre assez important de gendarmes. Donc, malheureusement, au niveau effectif militant, ça n'a pas été suffisant, mais on arrive à les ralentir, les travaux, mais pas à les arrêter encore.
En termes d'organisation, maintenant que vous êtes moins centralisé à un endroit, vous passez par les réseaux sociaux pour vous solidariser. Est-ce que vous avez encore un lieu de rassemblement?
Oui, du coup, les zadistes se sont réinstallés puisque le terrain tout simplement était rasé, était sous surveillance des gendarmes. Donc en fait, on a deux terrains que des soutiens nous laissent utiliser, en fait.
D'accord.
À un côté du village de Kolbsheim et l'autre de l'autre côté du village. Donc assez proche les deux lieux. Il y a des constructions en dur qui sont en train de se refaire, certaines qui sont déjà finies et qui permettent de passer l'hiver.
Est-ce que vous avez des appuis externes, pas forcément locaux, des personnes qui viennent d'autres endroits, ou c'est vraiment une lutte locale?
Il y a des gens qui arrivent, qui sont de passage à la ZAD, qui restent parfois quelques semaines.
Ouais.
quelques jours, qui viennent nous prêter main forte sur les actions de blocage, qui viennent aider à bricoler sur les cabanes qu'on construit, ce genre de choses. Mais après, la plupart des militants, l'immense majorité des militants sont locaux, oui.
L'émission touche bientôt à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Dans quel sens nos auditeurs peuvent vous soutenir? Est-ce qu'il y a un moyen d'action pour vous? Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Ben, moi, si les gens veulent nous aider, la première des choses, c'est qu'il nous faut des bras. Il nous faut des gens sur place pour aider à bloquer les chantiers, parce qu'aujourd'hui, notre force, c'est le nombre. Et que plus de gens viendront nous aider à bloquer Vinci, et plus on aura de chances de réussir. Sinon, faire connaître notre combat au niveau national.
Ouais.
C'est quelque chose d'important. Je pense que c'est ce qui a beaucoup aidé.
Du coup, le site internet sur lequel on peut aller.
Alors oui, sur Facebook, vous tapez ZAD du Moulin, vous trouverez. Sinon, il y a www.zaddumoulin.fr.
Ouais.
Également www.gconomerci.fr. GCO non merci en un seul mot, qui est le site du collectif d'association également. Et Alsace Nature aussi, qui est très engagé sur la partie juridique de la lutte.
D'accord. Très bien.
Et qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Comme sur beaucoup de grands projets inutiles imposés, que l'État arrête enfin et accepte le moratoire.
Bien sûr.
Surtout au vu de la position de la population locale, qui est un vrai support.
Et puis des engagements climatiques de l'État. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Barbara Glozewski, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot ou...
Non, pour ceux qui veulent suivre ce qui se passe sur Notre-Dame-des-Landes, il y a le site de Zad Nadir. Et puis aussi, si vous tapez sur Google, Zadibao, c'est un journal formidable qui a été créé cet été, un mensuel. Et vous apprendrez plein de choses.
Et n'oubliez pas aussi, du coup, Radio Fréquence Paris Pluriel, soyez avec nous, vous qui nous écoutez, pour nous soutenir en allant sur le site de l'émission RFPP.
Merci à tous. On vous souhaite de passer un super week-end, une super soirée. Vous pourrez écouter cette émission mercredi prochain à 7h du matin, ou la podcaster comme toutes les précédentes sur le site internet de Mode d'Emploi, www.mode-d-emploi.net. Et vous pouvez nous écouter le mois prochain, le 22 février, où nous traiterons un sujet de droit international. Voilà, merci beaucoup, bon week-end à tous.
Bon week-end à tous, merci.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
J'ai entendu dire qu'il fallait pas décourager ceux qui croient ou chantent l'impossible. Mais le soulèvement n'aura pas lieu. Ce soir, il y a un match de Champions League. Réfléchis, ils vont pas se mettre en tôle entre eux. On est en trop, mais surtout assez nombreux. Réfléchis, ils vont pas se mettre en tôle entre eux. On est en trop, mais surtout assez nombreux. Réfléchis, ils vont pas se mettre en